il amène d'Ibn Israël au terme de leur pérégrination en Eretz Israël. Et le dernier volume, Varim, c'est le testament de Moshe Rabbeinu. C'est pas en train de nous raconter d'autres histoires. A tout vu. Quand on termine ici avec Bamidbar, avec le Sefer Bamidbar. Le Sefer s'appelle, certains l'appellent Bamidbar. C'est simplement à partir du mot, le premier mot qui est significatif dans le texte, comme les Parchiot. On dit autrement en français, on l'appelle aussi le livre des nombres, parce qu'on a dénombré, c'est l'essentiel du début de la paracha, au début. Et puis il est aussi appelé Chumash HaPekudim. C'est le Chumash des modèles, si vous voulez, où on a donné aux gens les tâches. Les gens sont mobilisés pour réaliser une certaine tâche, une fonction. Alors, si on devait dire quelque chose de ce Sefer, je pense il faudra dire que c'est en fait le livre d'un échec énorme. Et c'est un ratage de première classe. C'est un ratage, comme vous le savez. Le Sefer Bamidbar, il commence à parler le mois après l'érection du Mishkan. Donc, la chronologie, c'est en Nissan, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. En Sivan, ils ont reçu la Torah et ils ont fait le veau d'or. Et ils ont fait le veau d'or pendant que Moshe Rabbeinu était monté au Sinaï pour apprendre la Torah qu'il devait par la suite enseigner aux Bnei Israël. Ça devait durer 40 jours. Et malgré tous les efforts de Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas à apprendre la Torah. Alors à la fin, Akadosh Baruch Hu lui a dit, OK, tu as fait suffisamment d'efforts, je te donne la Torah. Tu n'arriveras pas à l'étudier tout seul, tu n'arriveras pas à intégrer les choses que je t'enseigne telles quelles, je te la donne. C'est-à-dire, voilà, c'est tu l'as, il a la Torah en lui. Et à la fin des 40 jours, au moment où Hachem va lui donner les louchot, les deux tables de la loi, comme on dit, les louchot abrit, les tables de l'alliance, à ce moment-là, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Lech red ki shifet amcha, redescends. Ton peuple a fauté. Ton peuple s'est fourvoyé, il s'est très mal conduit. Alors Moshe Rabbeinu lui dit, pourquoi tu dis que c'est mon peuple, c'est le tien, c'est pas moi. Alors Hachem lui dit, non, pas du tout, c'est le tien. Parce que ceux qui ont entraîné, c'est les gens du Erev Rav. Et le Erev Rav, je t'avais dit de ne pas les prendre. Mais Moshe Rabbeinu avait dit, mais si, ils ont l'air sincères, pourquoi pas, pourquoi on ne les prend pas? Alors Hachem a dit, tu veux les prendre, prends-les. Mais évidemment, il appelle ça hein, le peuple de Moshe. Et donc Moshe Rabbeinu va descendre. Alors, avant de descendre, la situation était comme ça. Les louchot, elles ont six tfachim. C'est 60 centimètres, si vous voulez, c'est deux rectangles de 60 centimètres de longueur, peut-être carré, donc éventuellement complètement carré. Et un tiers était si on peut parler comme ça, dans les mains d'Hachem, un tiers dans les mains de Moshe et un tiers entre les deux. Et quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, descend, Moshe Rabbeinu, il a tiré les louchot et il a réussi à arracher les louchot. Bon. Et il est descendu et en fait, il a vu le désastre et il a brisé les louchot parce qu'il pensait que les louchot, avec leur contenu, étaient un accusateur d'Ebné Israël puisque dans les louchot, il y a l'interdit de l'idolâtrie et que l'Ebné Israël s'était livré à l'idolâtrie. Bon, on avait tous problème. Et du coup, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je vais détruire ce peuple et je vais en reconstruire un nouveau avec toi. Là, Moshe Rabbeinu a dit, moi, je ne suis pas candidat. Et si tu ne pardonnes pas à ce peuple, tu peux m'effacer de ton livre. Du coup, Hachem a pardonné. Alors, à la hauteur du pardon, il y a des discussions. Certains disent qu'il a pardonné. Le Gaon de Vilna, il dit que c'était un sursis. OK. Et donc, Moshe Rabbeinu est remonté deux fois pour d'abord obtenir le pardon d'Hachem, ce qu'il n'a pas obtenu tout de suite, et ensuite pour obtenir de nouvelles louchot, de nouvelles tables. Et ces tables, finalement, il les a reçues et il les a ramenées au Bnei Israël. Et le jour où il est arrivé avec les tables dans le camp des Bnei Israël, ce jour-là est devenu Yom Kippour. Bon, puisqu'on a eu la kapara sur la faute du veau d'or, c'est devenu un jour de kapara. Un jour tout à fait exceptionnel, un jour d'une certaine manière incompréhensible. Et puis tout de suite après, Hachem a donné l'ordre de construire le Mishkan. Donc on a ramassé on a collecté les matériaux nécessaires et on a commencé à construire un Mishkan. Donc on est dans Sukkot. Et ce Mishkan, il est terminé à Hanouka, en fait. Enfin, il est terminé en Kislev. Mais pour des raisons particulières, Hachem a décidé que l'inauguration, elle se ferait au mois de Nissan prochain. Donc, l'inauguration a été remise au mois de Nissan. Et donc, au mois de Nissan, on a érigé le Mishkan. On est déjà dans la deuxième année. Et le mois d'après, début du mois d'après, c'est là que commence le Sefer Bamidbar. D'accord? Donc il est dit ici que Vaïdaber Hashem el Moshe, Bamidbar Sinai Boel Moed, Be'echad la Chodesh Hasheni, le premier du deuxième mois. Le deuxième mois, c'est le mois de Iyar. Bashana Hashenit, Letzetam Eretz Mitzrayim, deuxième année après la sortie. Il leur a donné l'ordre de faire le décompte des Bnei Israël. Donc, c'est pratiquement un sefer qui va nous raconter toute l'histoire des Bnei Israël à partir du moment où ils sont sortis d'Égypte. C'est un clan d'Israël qui a déjà changé par rapport au clan d'Israël qui sort d'Égypte et qui a reçu la Torah, puisque ce clan d'Israël-là, il a fauté. Bon, il a déjà commencé sa carrière, si on peut parler comme ça, avec une énorme gourde, pour le moins. Idolâtrie, quoi. On est sorti de l'idolâtrie égyptienne et on est retombé tout de suite dans une forme d'idolâtrie. Ce n'était pas exactement une idolâtrie, etc., mais le comportement était un comportement d'idolâtrie. Comme vous savez, il va y avoir dans ce sefer-là, Le grand échec, c'est le problème des explorateurs. On a ici un décompte. Ce décompte, il correspond au décompte qui a été fait au moment de la sortie d'Égypte, mais il correspond aussi, allez dans le chapitre 26, chapitre 26, verset, je ne sais pas combien, un instant. Il y a de nouveau dans cette parasha de Pinchas, il y a de nouveau un décompte. Vous avez au début du chapitre 26, Vayomer Hashem el Moshe ve l'Elazar ben Aaron, à Cohen. C'est Lazare qui a pris la suite d'Aaron. Dans le décompte du début du Sefer Bamidbar, le décompte, l'ordre du décompte, il a été donné à Moshe et à Aaron. Bon, c'est Moshe et Aaron qui vont faire ce décompte. Et là, c'est Moshe et Lazare, le fils d'Aaron. Et on compte à peu près de la même manière que au début du Sefer. Mais, et on retombe quasiment sur les mêmes chiffres, à peu près, que au début du Sefer. Donc, si on s'en tient aux chiffres, on pourrait s'imaginer qu'il y a une vraie continuité, en fait. Mais à la vérité, dans le décompte du chapitre 26 de Parshat Pinchas, il y a pratiquement personne qui était déjà dans le décompte du début du Sefer Bamidbar. N'est-ce pas? Tous les hommes sont décomptés ici. Ils ont plus de 20 ans, c'est tous les hommes qui sont en âge de faire la guerre. Tous les hommes qui sont en âge de faire la guerre et qui sont comptés ici au début du Sefer Bamidbar, ils vont tous mourir, à l'exception de deux d'entre eux, Yoshua et Caleb, qui eux sont les deux explorateurs qui n'ont pas participé au complot des 10 explorateurs qui ont dit du mal d'Eretz Israël, qui ont découragé les Bnei Israël d'aller en Eretz Israël, etc. Et Hachem avait dit que, justement, il allait éradiquer ce peuple. Donc il a éradiqué non pas tout le monde, les femmes n'ont pas été tuées, mais les hommes. Tous les hommes qui, si vous voulez, en gros, on peut dire, les gens qui ont participé en tant qu'adultes à la sortie d'Égypte et au don de la Torah, ces gens-là ont tous disparu. À l'exception, donc, des deux. Moshe et Aaron aussi ont disparu, mais pas pour les mêmes raisons. Mais eux non plus ne sont pas dans le décompte de ceux qui vont entrer en Eretz Israël. Alors, ça c'est un échec gigantesque. Le voyage ici qui commence, dont on nous parle ici, c'est un voyage qui devait durer 11 jours. Il a duré 40 ans. Alors, non seulement il y a eu un changement de génération chez les hommes, mais tout a changé pendant ces 40 ans. D'une part, l'idolâtrie dans le pays d'Israël, dans le pays de Canaan, l'idolâtrie des Cananéens s'est développée. Elle a pris 40 ans de tradition idolâtre, 40 ans où la terre a été profanée, etc., par l'idolâtrie. Ils vont entrer dans un pays qui est marqué par 40 ans de plus d'idolâtrie. Les Bnei Israël ne seront plus non plus à la hauteur. Et les gens qui avaient atteint ce niveau extraordinaire qui a été atteint au moment du don de la Torah, ces gens-là ont disparu. Ce sont leurs enfants qui étaient mineurs au moment des grands événements. Ils ne sont pas à la même hauteur. Ces gens-là n'ont pas vécu la sortie d'Égypte et Matan Torah en tant qu'adultes. Plutôt des gens qui sont un peu dans la position d'un comme nous, quoi. Des gens auxquels on a raconté la sortie d'Égypte, ou raconté, bien parce qu'ils n'étaient pas là du tout, bien parce qu'ils étaient trop jeunes, pour se rendre compte de ce qui se jouait vraiment. Donc c'est un désastre. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, quand on va lire la paracha, les parchiotes, on va voir avancer ce désordre. Il va y avoir encore d'autres choses. La terre va s'ouvrir pour engloutir Korach et Adato, etc. Des choses gigantesques. Et puis il y aura les guerres où Hachem a protégé les Bnei Israël, etc. Et puis, les Bnei Israël, ils râlent tout le temps, quoi. On dirait les Français, quoi. Ils râlent tout le temps. Ils râlent et ils disent plusieurs reprises, Nitna Roche, on va faire demi-tour, on va se donner un chef et on va retourner en Égypte. Alors, je crois, j'ai déjà raconté, je crois que c'est difficile d'imaginer qu'ils veuillent retourner en Égypte, c'est-à-dire retrouver la condition d'esclave. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas obligé de dire ça. Dans l'année qui a précédé la sortie d'Égypte, les Bnei Israël étaient formellement esclaves de Paro, mais ils ne travaillaient plus pour Paro. Et donc, ils avaient une vue de la vie en Égypte qui n'était pas aussi négative que cela. Quelque part, ils vont même dire, on était libre. On pouvait manger comme on voulait. Et là, le sens de on était libre, ça veut dire on était libre, on n'avait pas de mitzvot. Quasiment pas de mitzvot. On est avant Matan Torah. Et donc, c'est vers cela qu'ils disent qu'ils veulent retourner. Donc, en réalité, ce n'est pas simplement un changement de lieu. C'est vrai que d'un côté, tu as le désert, d'un autre côté, tu as le pays d'Égypte qui était, bon, en tout cas dans la vallée du Nil, c'était florissant. Et donc, il n'y a pas photo, hein, c'est sûr. Mais il y avait aussi une révolte contre les mitzvot. Bon, si on le lit comme ça, c'est un énorme échec. Il faut dire que il y a une autre lecture très puissante, qui est la lecture chassidique de tout cela. Les chassidim, ils ne le voient pas du tout comme un échec. Les chassidim, ils racontent cette histoire comme comme l'essai, comme la volonté des Bnei Israël de s'élever, qu'ils se trouvent, ils résolvent des problèmes, en fait. C'est pas du tout, on les présente pas du tout comme les révoltés que nous lisons, en fait. Alors, c'est une autre lecture, c'est un autre monde, c'est une autre façon de regarder les choses. C'est pas ma tradition à moi, donc peut-être de temps en temps, je apporterai un peu des enseignements dans la mesure où il y a des enseignements très, très, très importants. Il y a des très, très grands maîtres qui ont parlé de, qui ont lu la chose de cette manière-là qui me paraît vraiment très étrange, quoi. Ça veut dire des gens qui pour nous sont archi pourris, c'est des gens qui ont une recherche très élevée, quoi. Et donc, on verra ça éventuellement un petit peu en passant. Mais il faut savoir que c'est, il y a toute une, enfin, une énorme littérature là-dessus. Très importante. Alors, le début de la paracha, hein, il est un peu étrange parce que nous dire qu'on était Bemidbar Sinaï, ça on le sait. Et par conséquent, on peut se demander pourquoi effectivement nous préciser qu'on est dans le désert du Sinaï. Alors, probablement que ça vient dire ici, c'est l'accent, il n'est pas sur Sinaï, mais il est sur le désert. Ça veut dire que quand un peuple vit dans un pays, alors les mœurs et les de ce peuple vont être influencés par la topographie, par la géographie du pays. On n'a pas la même mentalité si on vit devant des étendues ouvertes ou si on vit dans une vallée profonde entourée d'énormes montagnes. On ne développe pas du tout le même état d'esprit. Dans le désert, on n'a pas de structure géographique qui nous aide. C'est-à-dire le clan Israël, il va faire une expérience d'organisation indépendante de l'espace, puisque l'espace n'aura pas d'importance. On est dans le désert. Donc ça va être complètement artificiel, ce n'est pas du tout influencé par la nature ne jouera pas de rôle là-dedans. Il n'y a pas de montagne, de rivière, etc., dont on va tenir compte pour s'organiser, etc. Et les Bnei Israël, on va le voir, les Bnei Israël vont s'organiser parce que dans ce désert, d'abord, c'est une trajectoire. Ils vont bouger dans le désert. Donc, ils sont nomades. Mais ils ne sont pas des nomades qui suivent les troupeaux là où il y a des pâturages, etc. Ils sont guidés de façon complètement extraordinaire, parce qu'il y a des nuées de gloire qui les guident, et ils vont faire un voyage dans lequel il va y avoir des périodes où on se déplace et des périodes où on campe. Très inégal. Des fois, on va camper plus d'une année, des fois, on va camper quelques jours. Et ils ne savent pas à l'avance quand on va s'arrêter, ni combien de temps on va s'arrêter. Et les Bnei Israël vont camper. Quand ils s'arrêtent, ils vont camper, mais pas n'importe comment. Il y a un Mishkan, et le Mishkan va être au centre. Et les Bnei Israël vont camper autour du Mishkan. Et là aussi, on va introduire une structure, si vous voulez. Il va y avoir dans le campement d'Ebné Israël, ça va être un campement selon les tribus. On va garder la structure tribale. On a déjà parlé de cette notion de structure tribale qui est un peu étonnante dans la mesure où on veut construire un peuple. On pourrait considérer qu'il faut justement un melting pot, et pas du tout. On va garder la structure tribale. Et on va organiser, les Bnei Israël vont camper principalement sur les quatre points cardinaux autour du Mishkan. Les gens à l'est, les gens au sud, à l'ouest, au nord. Et puis, dans chaque point cardinal, il y aura trois tribus. Donc, ils vont camper quatre fois trois tribus. Et donc, il y aura trois tribus, une tribu centrale, dans le groupe de trois, et flanquée de deux tribus de part et d'autre. Donc, il va y avoir quatre tribus principales. Et ça, c'est comme ça qu'ils vont camper. Et quand on va se déplacer, eh bien, il va falloir ouvrir le cercle en question, et il va y avoir deux tribus devant, le Mishkan, et deux tribus à l'arrière. Une espèce de chorégraphie, si vous voulez, des Bnei Israël qui se déplacent dans le désert et qui, de temps en temps, campent. Alors, ça commence par un dénombrement. Et la première question, c'est pourquoi il faut dénombrer? On le sait. On sait combien ils sont. Dans le Sefer Shemot, qui est le Sefer qui historiquement précède justement le Bamidbar, celui qui va jusqu'à la sortie d'Égypte et le passage de la mer, etc., jusqu'à la construction du Mishkan. Et maintenant, le Bamidbar par la suite. Le Sefer Vayikra, qui était en milieu, c'est un Sefer qui n'a pas du tout la même structure. C'est un Sefer de mitzvot. C'est un livre de mitzvot qui ne sont pas, les mitzvot, elles ne sont pas présentées attachées à des lieux ou à des événements bien particuliers. Il y a une suite de mitzvot. Un Sefer à mitzvot. Shemot et Bamidbar, il y a des mitzvot, beaucoup de mitzvot, mais elles sont attachées à des situations concrètes, pour beaucoup. Pourquoi dénombrer alors qu'on connaît le nombre? Alors, on peut regarder la façon dont on a dénombré. On a dénombré en fonction des tribus. Et à l'intérieur des tribus, en fonction des maisons paternelles, enfin patriarcales. Et ce dénombrement, il est un peu particulier. Durant le dénombrement, les Bnei Israël en question, ils vont passer devant Moshe et Aaron. Regardez le verset d'Aleth. Ils vont passer devant Moshe et Aaron. Ve'itrem yu ish ish le maté ish. Le maté, pardon. Ish rosh. Le Bet Avotav, il va y avoir pour chacun qui passe quelqu'un de sa maison, enfin, de sa tribu et plus précisément de sa famille, quoi. Pourquoi? Certains expliquent que c'est parce qu'ils vont être tellement impressionnés de se retrouver devant Moshe et Aaron qu'ils risquent de pas du tout en profiter. Donc, pour les rassurer, on mettra quelqu'un qu'ils connaissent, qu'ils connaissent, qui va leur permettre de tenir debout devant Moshe Aaron. Mais le dénombrement, c'est pas Moshe et Aaron qui vont compter sur leurs doigts. Le dénombrement, regardez Rashi. Rashi, d'abord, il explique pourquoi on compte. Pourquoi Hachem compte. C'est pas du tout pour avoir une idée du total. On la connaît, on sait combien et il n'y aura pas de différence. D'accord? Et donc, c'est très étonnant qu'il n'y ait pas de différence. La différence entre, même s'il y a quelques jours de différence, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui naissent, des gens qui arrivent à 20 ans, qui n'avaient pas, hier ils n'avaient pas 20 ans, aujourd'hui ils ont 20 ans, donc ils sont comptés, hier ils n'étaient pas comptés. Comment c'est possible d'avoir exactement le même chiffre? En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout pour savoir combien ils sont. En passant, on va savoir, c'est comme si il y avait un dénombrement qui était pour mettre un peu plus de structure dans les Bnei Israël. Si on les compte par tribu, donc on va structurer les 600 000. C'est pas 600 000. Ça va être 12 fois, et pas du tout 12 fois toujours le même nombre, mais un nombre différent. Il va falloir faire l'addition de 12 nombres pour avoir le total. Et à l'intérieur d'ailleurs des tribus, il va y avoir, selon les familles, on va compter. Bien sûr, après on fera le total pour savoir combien il y a dans la tribu, et après on fera le total pour savoir combien il y en a en tout, mais on le connaît le total. Donc c'est plutôt quelque chose qui va nous dire, moi j'appelle ça la structure du clan d'Israël. Alors il est structuré de l'intérieur par son organisation numérique, quoi, par le poids de telle tribu, etc. On aura aussi, si on regarde, il y aura un poids différent au nord, au sud et à l'est ou à l'ouest, puisque les groupes de trois tribus, bon, ça va donner des sommes qui sont différentes. Donc on pourrait réfléchir et se demander pourquoi est-ce qu'il faut des poids différents dans les différentes directions cardinales. Et puis, il va y avoir une structure un peu extérieure qui est leur organisation par rapport au centre, c'est le Beth Amikdash, le Mishkan, le tabernacle. Mais bon, ils seront à égale distance de... Bon, c'est sur un cercle, donc. Mais justement, être à l'ouest ou être à l'est, c'est pas du tout la même chose. Être du côté du soleil levant ou du soleil couchant, pas la même chose, évidemment. Alors, Rashi explique. Rashi dit, il les compte à tout moment par amour. Et il compte sa fortune, quoi, c'est par amour pour eux. C'est une façon de dire combien Hachem nous aime. Donc il faut entendre ce décompte comme une manifestation d'amour de la part d'Hachem. Donc comment on compte? Donc je rappelle. Shiatsu les a comptés quand ils ont, après l'histoire du veau d'or, et donc la mort de toutes sortes de gens, il les a comptés, il les compte pour savoir quels sont les survivants. Quand il veut installer sa présence, c'est-à-dire au moment du Mishkan, il les compte. Et Rashi dit justement, Be'echad ben Nissan ou Kama Mishkan, pour dire que Il les a comptés au moment de l'instauration du Mishkan, le mois après, quoi. Le Mishpechotam, on va les compter selon leur famille. Alors, le pshat de Rashi, il est étonnant. Parce que Rashi dit, on va les compter selon les familles, Dam minyan kol shevet ve shevet. Les compter par famille, mais comme ça, tu vas savoir combien il y a dans chaque. Combien il y a dans chaque tribu? On n'a pas besoin de compter par famille pour savoir combien il y a dans la tribu. Ça veut dire probablement que c'est une façon de dire, la tribu, c'est pas encore le plus ultra, quoi. Quelque part, on veut aussi savoir dans la tribu comment c'est organisé. Quelles sont les grandes familles qui composent la tribu? Mishpacha, ça veut dire les gens avec lesquels on a un lien du sang, a priori, ou un lien par alliance. Donc ça veut dire c'est on va compter les gens qui ont le lien parce qu'ils appartiennent à la même tribu, mais en fait, le lien par la tribu, il passe par le lien dans la famille. C'est d'abord, faut fabriquer des liens dans la famille étendue, peut-être, et après, on peut passer à la notion de lien à l'intérieur d'une tribu. Bet Avotam. Alors, on précise ici, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe dans un mariage mixte? Le mari, il est d'une tribu, la femme d'une autre tribu. À quelle tribu on va les attribuer? On va pas les compter deux fois. Alors, c'est le Bet Avotam. Mishé Aviv, Mishé Vetechad, Veimo, Mishé Vetacher, Yakoum al Shevet Aviv. L'appartenance à la tribu se mesure d'après le père. Encore, c'est clair. Aujourd'hui, ça se voit seulement chez les Kohanim. Ils aussi, mais surtout chez les Kohanim parce qu'ils montent à la Torah, etc. D'accord? Ça veut dire que si vous avez un couple, la femme, elle est Bat Kohen et le mari, il ne l'est pas, l'enfant, il n'est pas Kohen. Au contraire, l'enfant, il sera Kohen. Le Goulgolotam, alors maintenant, comment on va compter? Aliédé Shkalim, Beka la Goulgolet. Qu'est-ce qu'on va compter? On ne va pas compter les gens. On ne va pas compter les personnes. On va compter les Shkalim. Chacun va donner un shekel. Beka, c'est un certain poids d'argent, quoi, une monnaie qui est un certain poids d'argent. Et on va peser l'argent en question et on aura le nombre de personnes. La vérité, et alors, qui est-ce qu'on va compter? Kol yotzei tzava, magid she'en yotzei batzava, pachot mi ben esrim. On ne fait pas la guerre à moins de 20 ans. Et on va compter à la limite comme si c'était un compte pour une armée, quoi. Donc c'est vrai que les Bnei Israël, ils sont à 11 jours d'une confrontation avec les habitants d'Eretz Kenaan. Alors je ne sais pas comment aurait été la guerre s'ils l'avaient fait à ce moment-là. Alors s'ils étaient entrés. Et s'il était arrivé en Eretz Israël 11 jours après, comment se serait fait la guerre? Bon, on est 11 jours après qu'Hachem ait fendu la mer pour eux, etc. Les sorties d'Égypte, ils sont dans une phase de... Ça sera aussi miraculeux dans 40 ans. Mais là, on pourrait imaginer que, je ne sais pas ce qui va se passer, peut-être qu'il n'y aurait pas eu vraiment de guerre au sens où il va y avoir des affrontements, etc. Peut-être les peuples, ils auront simplement eu peur. Peur, on voit bien dans la Shira de Hayam, on voit bien que ils comprennent que c'est vrai que c'est incompréhensible. Vous avez un petit peuple de rien du tout, qui n'est même pas encore un peuple, et qui bat, enfin, qui est plus fort que la puissance égyptienne. Donc, pas de sens, je veux dire. Ça ressemble à... Il y avait un temps où il y avait une alliance entre la Chine et l'Albanie. Ça veut dire que si on attaquait la Chine, alors l'Albanie serait venue à son secours. C'est un peu cette situation-là, quoi. Alors, on va compter des... Et il y a un problème avec cette façon de compter. Pas cette façon, mais du fait de compter, on sait très bien que c'est très mauvais de compter. Compter, ça amène des malheurs, et ça amène des malheurs au temps de David, etc. Vous savez bien qu'on compte jamais. Même dans un minyan, on compte pas les gens. On a une phrase, ou d'autres, une ou deux phrases, qui ont 10 mots, et on récite la phrase sur chaque personne. Mais on compte pas, on dit pas, il y a un, deux, trois, etc. Juste le dixième, on l'appelle la série Kodesh. Bon. Donc pourquoi il compte ici? Alors, d'abord, on ne compte pas, comme on a vu, on ne compte pas les personnes, on compte par l'intermédiaire des shkalim. Chacun va donner une pièce, on va compter les pièces. Donc c'est déjà pas... Quel est le problème de compter? C'est que quand vous comptez les gens, obligatoirement, le compte, ça c'est un problème général, c'est ça fait combien 3 pommes et quatre poires? Ça fait rien du tout. Seulement, on pouvait dire, ça fait 7 fruits. Mais vous avez des fruits seulement si vous oubliez que les pommes sont des pommes, les poires sont des poires, et que vous gardez le seul fait que c'est des fruits. Donc quand vous comptez et que il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David ou Shlomo, bon, vous pouvez pas compter. Donc vous êtes obligé d'oublier que c'est leur nom, leur qualité, etc. C'est des têtes de pipe, quoi, je sais pas, ou des crânes. Goulgolette, c'est un crâne, ouais. On compte les crânes. Ça veut dire que compter, c'est oublier la, c'est-à-dire c'est déposséder les gens de leur personnalité, quoi. On les voit comme un squelette ou quelque chose comme ça. Et encore, les squelettes sont pas les mêmes les uns les autres. Donc c'est en cela que c'est dégradant de compter. On veut pas compter parce que ça enlève la personnalité de chacun. Pourtant, Hachem compte. Alors, c'est vrai qu'il a, mais sauf, on compte quand même pour avoir le total des gens. Alors, Hachem dit, quand on compte par amour, c'est autre chose. Ça dépend de l'amour, je veux dire. Quand Harpagon, il compte son or, bon, c'est vrai que c'est de l'amour. Qu'est-ce qu'il en est? Bon, alors on nous lundi, et puis comment on va compter? Puis on explique toutes les familles, etc., toutes les tribus et les familles dans les tribus, etc. Et on compte. On compte toutes les tribus, sauf une, sauf la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, elle n'est pas comptée avec les autres. Au verset 40, 49 du chapitre, du premier chapitre, Ach et Maté Lévi, mais la tribu de Lévi, Lotifkod et Rosham, Velotissa, Betor, Bnei Israël. Tu n'en feras pas le dénombrement parmi les Bnei Israël. Et toi maintenant, alors, Ata Afked et Alvim, Al Mishkan Haedut, Val Kol Kelav, Val Kol Asherlo, Ema Yisu et Amishkan, Vet Kol Kelav, Vem Ishartu, Vesaviv le Mishkan Yachanu. Ça, voilà. Les Lévites, ils vont être responsables, en fait, du tabernacle, du Mishkan, tout ce qui est dedans. Et c'est eux aussi qui vont transporter le Mishkan quand les Bnei Israël vont devoir bouger d'une station à l'autre. Ce sont les Lévites qui vont transporter le Mishkan qu'on aura redémonté. Il est en kit, donc. On le démonte à chaque fois, on transporte démonté, on le remonte à chaque fois au camp. Les déménageurs, c'est la tribu de Lévi. Alors, et ensuite, dans la Shlishi, dans la troisième montée, Hachem dit à Moshe et à Aaron, Ish al diglo, beotot le bet avotam yachanu bnei Israël, mineged, saviv lo el moed yachanu. Ils vont camper, comme je vous ai dit, ils vont camper autour du Mishkan. Et ce qu'on nous dit ici, qu'ils vont camper chacun sous son dégel, sous son drapeau, sous sa bannière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des bannières, des drapeaux? Le Midrash, il dit que quand Akadosh Baruch Hu s'est manifesté au Sinaï, il s'est manifesté avec une nuée d'anges, de malachim autour de lui. Toutes sortes d'anges, vous savez, il y a toutes sortes de familles d'anges. Et ces anges-là, les familles d'anges en question, elles avaient des drapeaux. Et les Bnei Israël, quand ils ont vu ça, ils ont dit, nous aussi, on en veut. Alors Hachem leur a donné les drapeaux, en quelque sorte. Un drapeau, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, représente la tribu. Il y a un Midrash qui nous donne les caractéristiques des drapeaux de chacune des tribus. Le drapeau de Reuven, la tribu de Reuven, il était rouge. Et sur ce fond rouge, il y avait les Dudaïm. Vous vous souvenez, les Dudaïm, c'est les mandragores que Reuven avait trouvé et qu'il avait donné à sa mère. Ces mandragores, ces Dudaïm, en tout cas, ils ont la réputation d'être quelque chose qui favorise la fertilité. Et donc, Reuven, c'est curieux, Reuven, il en a ramené, il les a donné à sa mère. Comme vous savez, ça fait l'objet d'une grande discussion. Léa, elle avait déjà bien des enfants. Rachel n'en avait pas. Bon, quand Rachel a appris qu'il y avait des doudaïm chez Léa, elle a demandé à Léa de lui en donner. Léa lui a très mal répondu. En tout cas, elle a répondu sur ce qu'elle ressentait, quoi. Et du coup, finalement, elle a accepté de lui en donner. Mais quelque part, Rachel a payé un prix pour avoir ses mandragores. Le prix qu'elle a payé, elle a dit à Léa, oh, ce soir, Yaakov, il doit habiter chez moi. Je te donne la nuit. Il ira chez toi. Comme prix de... Tu me donnes les mandragores alors? C'est assez difficile de comprendre les mandragores, aussi de la fertilité, mais on va pas chercher l'immaculée conception, quoi. Donc, en fait, ça a l'air un peu contradictoire de lui donner la nuit et en même temps, bon, c'est comme ça. Et c'est intéressant parce que, du coup, quand Yaakov revenait de son travail, Léa est sortie à sa rencontre pour lui dire, ce soir, ça se passe chez moi. Et du coup, Léa est considérée comme quelqu'un qui sort à la rencontre des hommes. Et on va dire que quand Dina est allée voir ce qui se passait chez les filles là-bas à Shrem, ah, elle sort comme sa mère. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, mais quand même, telle mère, telle fille. Quelque part, cette façon de sortir à la rencontre, alors que, a priori, comment est-ce qu'on peut faire d'autre? On va pas laisser Yaakov aller, il va arriver chez Rachel, s'installer, et au bout d'un moment, elle va lui dire, voilà, bon, je te fais un café, etc. Mais bon, la suite du repas et la suite, ça se passe chez ma sœur. C'est pas un grand cavote pour Jacob. De toute manière, c'est assez difficile de comprendre cette espèce d'arrangement. Il est manipulé par les femmes, quoi. C'est elles qui disent, tu vas ici, tu vas là-bas. Alors, bien sûr qu'il a des obligations, mais bon. En tout cas, voilà, c'est ça les mandragores. Et c'est ça qu'on a mis comme emblème de la tribu de Réhouven. Bon, il faut réfléchir à ce que ça peut bien vouloir dire. Comme si Réhouven était en charge de la pérennité du clan d'Israël, il faut assurer le... Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est vrai qu'il est le premier-né, mais... Que c'est ça que ça veut dire. Comme il s'occupe de fertilité, peut-être lui, il n'a pensé à rien, c'est un enfant qui ramenait. Le drapeau de Shimon, il est encore plus surprenant. Il était vert et il y avait, ils disent, une broderie qui représente la ville de Shrem. Comme vous savez tous, c'est la ville que Shimon et Lévi ont massacrée à la suite du problème du rap de Dina. Sur cette façon de faire, Yaakov a dit au sujet de Shimon et Lévi, je veux rien avoir à faire avec eux. Des assassins, quoi. Et c'est ça qu'on met sur l'emblème de Shimon. Très étonnant. Enfin, pour moi, c'est étonnant. Mais ça oblige à, je sais pas, faire la référence. Je peux pas réfléchir à ce que ça représente. Ça devrait être fait, d'ailleurs, cette réflexion, mais bon, si Reuven est étonnant et Shimon beaucoup plus étonné encore. Qu'est-ce que vous pensez? Ça n'a pas l'air de faire réagir. Alors, on a toute la liste des. Vous avez dans le Hard Scroll, il donne toute la liste. C'est un Midrash, Bamidbar Rabba, dans le deuxième chapitre. Alors, en plus de ça, il y a chaque tribu avait un drapeau. Mais maintenant, quand les tribus campaient trois par trois, il y avait une seule bannière dans chacun des quatre points cardinaux. C'était la bannière de la tribu centrale. Et sur ces quatre bannières-là, il y avait en plus de ce qu'on a des emblèmes en question, il y avait des lettres. Lettres de l'alphabet, mais ces lettres, si on les combinait ensemble, si on les combinait, ces lettres, elles formaient les prénoms des avot d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que, d'une certaine manière, pour pouvoir parler d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, il faut que toutes les tribus se mettent ensemble. Seulement comme ça qu'on aura les lettres, toutes les lettres qui vont permettre d'écrire les lettres, les noms d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, du coup, la Torah, il nous réexplique l'organisation enfin, on nous explique l'organisation en 4 x 3. Et puis, elle nous dit comment, effectivement, ils vont se déplacer. Les deux premières tribus, ensuite le Mishkan et les deux dernières tribus. Voilà. Et puis, à la quatrième montée, revit. Au début du chapitre 3, donc, on nous donne Toldot à Aaron ou Moshe. Voici les descendants, les engendrements d'Aaron et de Moshe le jour où Hachem a parlé à Moshe au Sinaï. Behar Sinaï. Le jour où Hachem a parlé à Moshe Rabbeinu sur la montagne du Sinaï. Et voilà leur nom. Ve'ele shemot bnei Aaron, Abchor, Nadav, ve'Aviu, ve'Elazar, ve'Itamar. Ele shemot bnei Aaron, a Kohanim, c'est ça les noms des fils d'Aaron, ce sont les quatre Kohanim, à ce moment-là, il n'y a personne d'autre qui est Kohen. Ameshuchim, qui sont oints. Asher milei yadam l'chaen, bon, qui sont ceux que ils vont fonctionner comme Kohanim, comme en fait c'est ils vont officier comme on dit. Et puis on nous raconte que bon, alors Nadav et Abihu sont morts, ils ont été remplacés par leurs deux frères, Elazar et Itamar. Et ici, vous devriez poser une question. La phrase introductive, c'est Elle est Toldot Aaron ou Moshe. Et on a énuméré que les fils d'Aaron. On n'a pas énuméré du tout les fils de Moshe. C'est étonnant, non? Alors, regardez Rashi. Beyom diber Hashem et Moshe. Hashem a parlé avec Moshe au Har Sinai. Nasu elu al toldot shelo. Shelimdam. Ma shelamad mipi agvura. Quand Moshe Rabbeinu a enseigné au fils d'Aaron ce qu'Hachem lui avait enseigné dans les 40 jours au Sinaï, ils sont devenus les enfants de Moshe. Et on apprend de là que celui qui enseigne aux enfants de quelqu'un, il devient leur père. Donc les fils d'Aaron avaient deux pères. Aaron, d'abord il était leur père biologique et ensuite bien sûr il leur a sûrement enseigné, mais Moshe aussi est devenu leur père parce qu'il leur a enseigné. Donc on peut devenir père en enseignant. Bon, c'est très intéressant parce que je sais pas si on a parlé de la paternité, je crois, il y a une ou deux séances. Je sais pas si j'ai parlé de ça avec vous. Il y a une grande différence entre la maternité et la paternité. C'est que les imaot, les matriarches, elles vont devenir les mères des enfants qui ont été conçus par leurs servantes, parce qu'elles les ont élevés. Elles considèrent, et nous aussi on considère, que Rachel et Léa ont construit à elles deux le clan d'Israël. C'est a priori un abus de langage dans la mesure où elles étaient pas toutes, il n'y a pas qu'elles deux. Les deux Shfachot, elles ont contribué, chacune avec deux enfants. Donc, il y a quatre tribus qui sont les enfants des Shfachot. Ils sont pas les enfants de Rachel et Léa. Pourtant, on dit clairement, Asher Banu Shnehem, elles ont créé, elles ont construit toutes les deux le clan d'Israël. On voit que, d'ailleurs elles-mêmes, elles disent, je vais être construite parce que ma servante, elle va quasiment accoucher sur mes genoux. C'est comme si presque physiquement on allait présenter l'enfant comme s'il était mis au monde par les matriarches, par Rachel et Léa. Et l'enfant est considéré comme leur enfant. Alors, est-ce que en élevant Est-ce qu'en élevant un enfant, est-ce qu'un père devient le père? Vous m'arrêtez? Cette question-là, c'était la question de Yosef. Yosef, il a, quand il est arrivé en Égypte, il a été acheté par Potiphar. Potiphar, il s'est acheté un jeune esclave. Alors, en fait, Potiphar, comme tous les serviteurs, les hauts serviteurs de Pharaon, tout le monde était castré. Ils étaient tous castrés. Donc Potiphar, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Madame Potiphar, elle voulait absolument un enfant. Et Potiphar, il a voulu faire plaisir à sa femme. Il dit, on va régler le problème. Je vais acheter un esclave. L'esclave, il va faire un enfant avec, il va faire un enfant à ma femme. Et moi, je prendrai cet enfant, je vais l'élever, ça sera mon enfant. Adopter les enfants, c'était quelque chose que, par exemple, les Romains faisaient, les Romains qui avaient les moyens, faisaient couramment. Il adopte, il devient mon fils, etc. Et donc, Potiphar pensait que Yosef allait faire le travail. Et Yosef, il a été engagé pour ça. Yosef n'a pas été engagé pour être simplement un évêque il fait un boulot. La vraie raison pour laquelle C'est lui qui a été choisi parce qu'il était un bel esclave, jeune, etc. C'était pour qu'il fasse un enfant à Madame Potiphar. Et quand la Torah, elle nous dit que un beau jour, Madame Potiphar, elle a donné congé à toute la maisonnée. Et quand Yosef est venu, alors on dit, il venait faire son travail. Alors, il y a deux explications sur le faire de son travail. Est-ce qu'il allait simplement, il venait le travail qu'il faisait tous les jours, ou est-ce qu'il allait faire le travail pour lequel il a été acheté? Donc, il y a une citation, bon, on sait, le Midrash dit clairement, effectivement, il a décidé qu'il allait faire le travail qu'on lui demande de faire. Ça correspondait aussi à ses rêves. Parce que, à travers Madame Potiphar, il allait pouvoir s'élever et éventuellement ses rêves de domination, de royauté, etc., ou d'arriver à une. Ça deviendrait peut-être possible. Peut-être que Madame Potiphar, c'est un marchepied pour. Donc, il a peut-être pensé que c'est quelque chose qu'il devait faire. Et il était au milieu de l'opération. Tout à coup, il y a eu l'image de son père. Donc, l'image de son père, ça voulait dire, ça marche pas. Si c'est toi qui fais un enfant à Madame Potiphar, ça ne deviendrait jamais l'enfant de Monsieur Potiphar. Pourquoi? La paternité, elle marche pas comme ça. La paternité, elle peut se faire seulement par un rapport conjugal. Concrètement, pour nous, cette histoire de la paternité, elle a une nafkamina dans le cas de l'adoption. Est-ce qu'un enfant qui est adopté, on peut l'appeler à la Torah comme s'il était le fils de celui qui l'a adopté, ou est-ce qu'on doit l'appeler d'après son vrai père ou Ben Avraham. Bon, il y a là-dessus Marloquet. Je crois que le Khatam Sofer n'y permet pas. Et la vérité, c'est qu'il y a une chita d'un possèque du XVIIe siècle qui dit que il envisage complot théorique à son époque, il se demande si une femme est enceinte de son mari, mais qu'elle est enceinte bien qu'il n'y ait pas eu de rapport conjugal. C'est tout dans la Gemara, pour pouvoir parler de ces questions-là, elle faisait comme si elle croyait. Une femme pouvait être enceinte, par exemple, de sperme qui était en balade dans une baignoire, et que la femme, les Chazal, ils n'ont jamais pensé une chose pareille. On le voit très bien dans la Gemara, mais ça leur a permis de réfléchir sur la question. Et donc, ce rave-là, il se demandait si dans ce cas-là, il est l'enfant de son père. Mais comme il n'est pas la résultante d'une relation conjugale standard, lui, il était noté qu'on ne peut pas l'appeler Ben, son père, à la Torah. Bon, les autres, ils ne pensaient pas comme lui, et la question est une question qui est discutée, etc. Mais, bon, pour nous, c'est ça l'histoire, c'est que la paternité, elle ne peut pas résulter d'autre chose que de la génétique, quoi. Et là, c'est étonnant parce que ici, on est en train de dire que si on enseigne, on devient père. Alors, est-ce qu'il faut dire que il y a une différence entre enseigner la Torah et ils ont élevé un enfant, On le prend en charge, on l'élève, on lui donne son nom, etc. Ça ne marcherait pas. Mais par contre, si on lui enseigne la Torah, on deviendrait son père. Mais alors, ça veut dire quoi? Les enfants qui vont au Talmud Torah, ils ont tous une multitude de pères. Chaque année, ils ont un nouveau père. Chaque fois qu'ils passent à la classe supérieure, c'est un peu compliqué à penser tout ça. En tout cas, c'est écrit ici comme un limoud concernant Moshe Rabbeinu. Alors peut-être ça n'est vrai que pour Moshe Rabbeinu, parce qu'il leur a enseigné la Torah qu'il a entendue au Sinaï à ces enfants-là. Parce qu'en réalité, on est bien obligé de dire quelque chose de ce genre-là, parce que sinon, Moshe Rabbeinu est le père, il a enseigné à tout Israël, donc il est le père de tous les enfants d'Israël. Il a enseigné à tout le monde. Quelque part, on est obligé de dire que ça doit être quelque chose de particulier pour cet enseignement direct, en fait, qu'il a. Seulement parce que c'était énormément et pas à tout le monde. Est-ce qu'il fallait en plus que ce soit les enfants de son frère? On voit bien qu'il existe dans la mitzvah de Yiboum, il y a bien un lien entre les enfants des frères. Bon, c'est en passant. Ensuite, alors je vais aller pour terminer, au passouk Yud Aleph, Yud Bet. Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Vani, et quant à moi, dit Hachem, Iné, voici la karti et alvim mitoch bnei Israël. J'ai pris au sein des bnei Israël, je me suis pris, j'ai pris pour moi. Pour moi, les levim. Et je les ai pris tachat kol bechor. Je les ai pris pour remplacer tous les premiers-nés. Pourquoi? Il lit Kol Bechor Beyom Akoti, Kol Bechor Beretz Mitzrayim. Igdashti li Kol Bechor Beyisrael. Mais Adam Adbehema, li Yu Ani Hashem. Hashem dit, voilà. Lorsque j'ai frappé l'Égypte en tuant les premiers-nés égyptiens, les Bnei Israël étaient en Égypte, ils étaient eux aussi en danger. Parce que à partir du moment où on permet au Malach HaMavet de tuer, lui, il fait pas obligatoirement le détail. Donc il a fallu qu'Hachem sauve spécifiquement les Bnei Israël. Donc on dit Hachem a passé, c'est Hachem qui a passé par-dessus les maisons. Et du coup, il a acquis, je les ai sortis de la mort, donc je les ai acquis, tous les Bechorot des Bnei Israël sont à moi. Ils sont à moi depuis ce moment-là. Alors, c'est assez intéressant. Un peu même surprenant, parce que si vous vous rappelez bien, Yaakov Avinu, il a acheté à Esav la Prora. Esav était le premier-né. Et Yaakov, il lui a proposé de lui acheter la Prora. Tu me la vends. Il la lui a vendue pour un plat de lentilles, enfin bon, peu importe. Et du coup, Yaakov est devenu le Bechor à la place de Esav. C'est un peu comme ça J'ai justifié qu'il allait prendre la bracha chez son père, parce que son père, il voulait donner la bracha a priori au premier-né, et il savait pas qu'ils avaient eu ce deal entre eux. On va parler de ça maintenant. Mais de quoi est-ce qu'ils ont parlé quand ils savent, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu veux acheter là? Alors, Jacob lui dit, expliquait que c'était la avoda. Que les prorotes, c'est eux qui font la avoda, font le service d'Hachem. Donc ça veut dire que être au service d'Hachem, c'était déjà vrai à ce moment-là. Les prorotes étaient déjà au service d'Hachem. Mais on peut presque dire, c'est présenté comme une évidence. Il n'y a pas de passouk qui nous dise à ce moment-là, que le premier-né, il était au service d'Hachem, au moment de Yaakov et ça. Simplement, on comprend quand il lui explique, voilà, c'est ça. Donc, ça a l'air d'être une espèce d'évidence. Alors, d'après ce qu'on explique d'ordinaire, que le Bechor, c'est une espèce de second père qui enseigne l'enseignement de. Il transmet l'enseignement du père dans le langage de la nouvelle génération, ses frères et sœurs. Alors on peut dire que c'est quelque chose de naturel. C'est naturel que le fils aîné soit le transmetteur, l'intermédiaire entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Mais ensuite, quand Hachem a acquis les premiers-nés des Bnei Israël, ça, ils lui appartiennent, et c'est eux qui étaient en charge de faire le travail de la avoda, vraiment. Seulement, il y a une halakha qui dit qu'un Kohen qui aurait pratiqué volontairement ou involontairement, etc., l'idolâtrie, il ne peut plus fonctionner comme Kohen. C'est-à-dire, il peut plus fonctionner comme le Cohen qui va faire les korbanot, etc. Il est encore Cohen. On ne dit pas qu'il ne peut pas manger de la trouma, etc. Il peut manger de la trouma, il va faire le back-office, etc. Mais devant, quoi, quelque part, non, il ne peut plus. C'est disqualifié parce que comme il a fait la même chose pour il y a beaucoup de gestes semblables, etc., il est disqualifié. Et donc, les prorotes se sont disqualifiés en pratiquant l'idolâtrie au moment du veau d'or. Donc, il n'y a plus personne pour faire la avoda. C'est normalement les prorotes qui doivent le faire. Il n'y a personne. Personne. Alors, c'est un peu compliqué parce que Hachem, il a acheté les prorotes, il a acheté les prorotes au moment de la sortie d'Égypte. Parce que c'est au moment de la Makkah de Prorotes, c'est la 10e Makkah. Voilà. À ce moment-là, les Bnei Israël sont à lui. Et donc, ils deviennent en responsabilité, disons, de faire la Avoda, parce qu'ils appartiennent à Hachem. Et quand on arrive au veau d'or, c'est-à-dire, on est quasiment, je sais pas, 60 jours après. Bon, puisque on est passé de Matan Torah de Yetziat Mitzrayim à Matan Torah, ça fait 50 jours. Et puis c'est la faute, elle s'est marquée le 40e jour après que Moshe Rabbeinu soit monté. Donc on est 40 jours après Matan Torah. Donc vous avez 50 plus 40, on est à 90 jours de la sortie d'Égypte. Donc pendant 90 jours, les prorotes étaient vraiment les Kohanim, les prêtres, si on peut parler comme ça. Par Kohanim, j'entends pas obligatoirement seulement le fonctionnement de peut-être le Mishkan, etc., les Korbanot, mais aussi ce qui est fait l'essentiel du travail des Kohanim, c'est l'étude et l'enseignement de la Torah. Parce que comme on a déjà dit, je dis souvent, les Kohanim, Ils travaillent 15 jours par an. Il y a 24 groupes de Kohanim. Chacun travaille un 24e de l'année, c'est-à-dire 15 jours. Alors, c'est sûr que dans le back-office, il y a beaucoup de travail, etc. Mais essentiellement, ils travaillent 15 jours par an. Qu'est-ce qu'ils font le reste du temps? Ils doivent étudier et enseigner. C'est eux qui sont, cette tribu-là, qui sont en charge d'enseigner. Donc, eux aussi étaient en charge d'enseigner, mais enseigner, c'est justement faire le transmettre d'une génération à l'autre. Donc, c'est pas contradictoire. Et maintenant que c'est disqualifié, ils sont disqualifiés, alors qui va faire le job, quoi? Hachem va, en particulier quand Hachem va ordonner de construire le Mishkan, etc., qui va faire le travail? Alors, on est, tout ce récit, il est après l'érection du Mishkan, on a inauguré le Mishkan, et on a compté les Bnei Israël, et on est dans la suite de tout ça. Alors, Hachem dit, voilà, moi j'ai pris, je me suis pris l'élvim. J'ai pris l'élvim pour remplacer les Porot. Désormais, ce sont les Lévites qui vont faire le boulot. Les Lévites et les Kohanim, quoi. Simplement, il faudra remplacer les Porot par les Kohanim, par les Lévites. Voilà. Donc, Hachem lui dit, voilà, tu vas dire aux Bnei Lévi, voilà, que c'est leur boulot. Alors, on va compter. On va compter les Lévites. Et puis, on va arriver au chiffre de 22 000. Il y a 22 000 Lévites. Puis, on va compter les prorotes. Et les prorotes, c'est 22 273. Et donc, Hachem ne voulait pas simplement dire on remplace les prorotes par l'Elvim. On va remplacer terme à terme chaque Bechor par un Lévi, avec un tirage au sort, etc. Mais évidemment, comme il n'y a pas assez de Lévim pour remplacer, il y a des Prorotes qui, quand ils vont tirer au sort, ben, ils n'auront pas de Lévi qui leur correspond. Alors Hachem a dit, bon, on va remplacer ça. On va remplacer les 273 Bechorot par de l'argent. C'est-à-dire, on va donner à Aaron, etc., on va lui donner 5 shkalim par tête pour les 273 Bechorot qui n'ont pas de remplaçant par les lui. Donc à ce moment-là, les Bechorot, c'est eux qui ont dû payer. Le Bechor qui n'avait pas la chance d'être remplacé par un Lévi, ben lui, il a dû y aller de sa poche et payer 5 shkalim pour le remplacer dans la caisse d'Aaron. Alors ça ressemble beaucoup à la mitzvah de Pidyon Aben, mais a priori, ce n'est pas exactement ça. Mais c'est la même chose et il se trouve que c'est la même démarche, quoi, si on peut parler comme ça. Mais tel que c'est décrit ici, c'est pas décrit comme une mitzvah. C'est décrit comme le narratif de ce qui s'est passé quand il a fallu remplacer les prorotes par les lévites. Et donc c'est les prorotes de l'époque là qui ont donné 5 shkalim pour les remplacer par un Lévi. Terminé. Fin de l'épisode. Quelque part, on voit déjà aussi que cette notion de rachat, elle se fait avec 5 shkalim. Alors, en passant, on nous dit ce que c'est qu'un shekel. Un shekel, c'est une poids, c'est un poids d'argent. Mais quel volume? Le volume, c'est 10 guéras. Ça veut dire, il y a 10 grains d'orge. 10 grains, tu prends le volume de ces 10 grains, tu les remplaces par 10 grains qui auraient le même volume, mais en argent, ça te donne un shekel. Ce qui est écrit dans la Torah. Parce que sinon, on ne sait pas ce que c'est un shekel. Il faut bien commencer par expliquer. Alors, il faudrait regarder ce que ça vaut aujourd'hui, ce petit volume d'argent, au prix où est l'argent, même si on prend l'argent métal. Bien, ça ne va pas valoir beaucoup. Ce 10 grains, quel qu'il soit, même si c'est gros grains, ça ne fait pas une. Ça n'a pas fait beaucoup de centimètres cubes de, plutôt des millimètres cubes, quoi. Peut-être un centimètre cube, je sais pas. Combien est-ce qu'on peut mettre de grains? Peut-être dans un centimètre cube, on aurait peut-être, je sais pas. Même si c'était un centimètre cube d'argent. Bon, il faut connaître le poids de l'argent et on saura combien ça vaut. Prof d'économie, non? Bon, quelqu'un fera le calcul pour la prochaine fois. Il dira combien aujourd'hui, combien ça coûte de se faire remplacer. Voilà, on s'arrête là. Alors, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Jeudi prochain.